autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour remonter le temps aux origines de la vie sur Terre. Quand, comment et où sont apparues les premières formes de vie complexes? La vie est-elle apparue plusieurs fois? A-t-elle disparu pour réapparaître sous d'autres formes et dans d'autres conditions? Autant de questions réouvertes par les découvertes révolutionnaires de notre invité, le professeur de géologie Abderrazak El Albani, qui a mis au jour presque par hasard, au Gabon, des formes de vie multicellulaires datant de 2,1 milliards d'années, soit 1 milliard d'années plus tôt que prévu, rien que ça. Bouleversant au passage tout ce que nous pensions savoir sur l'émergence, les apparitions et les disparitions de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une découverte majeure, confirmée par d'autres, ailleurs dans le monde, en Ukraine et en Mauritanie, où ces formes de vie complexes et bien plus anciennes qu'on ne pouvait l'imaginer sont actuellement étudiées. Une sacrée aventure scientifique et humaine qu'Abderrazak El Albani nous fait partager avec l'enthousiasme qui le caractérise, dans un superbe roman graphique et collectif dont nous avons un exemplaire à vous offrir autour de la question « Comment tout a commencé sur la Terre ?» Bienvenue pour le découvrir également dans ce documentaire « Que savons-nous des origines de la vie sur Terre ?»
Depuis toujours, l'homme cherche à comprendre comment la vie a pu naître sur Terre. Mais, depuis 200 ans, le dogme nous certifie trois choses. La vie a surgi sous forme de bactéries il y a 3,5 milliards d'années.
Les organismes pluricellulaires sont apparus il y a 550 millions d'années. Entre les deux, rien de très significatif. Pourtant, en 2008, une équipe internationale va faire une découverte extraordinaire au Gabon.
Lors de fouilles géologiques anodines, dans un sol très ancien,
l'équipe du professeur El Albani met au jour des fossiles d'organismes inconnus de grande taille.
Leur analyse va prendre des années, mobiliser des chercheurs du monde entier et des technologies de pointe. Ainsi, il est enfin possible d'écrire une nouvelle histoire du vivant. La vie est apparue il y a 2,1 milliards d'années, s'est éteinte, puis a réapparu il y a 550 millions d'années. Ce n'est pas donc une, mais au moins deux explosions de vie qui se sont succédées sur Terre. C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Cette histoire, si on peut la raconter aujourd'hui, c'est grâce à vous, Abderrazak El Albani. Bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous sur RFI. C'est toujours un très grand plaisir de vous recevoir et c'est pas si courant d'avoir la chance de côtoyer comme ça un vrai découvreur, un chercheur qui révolutionne au fond toute la chronologie du vivant sur Terre. Je rappelle, Abder, que vous êtes professeur de géologie à l'Institut de chimie des milieux et des matériaux de l'Université de Poitiers et que c'est presque par hasard, en faisant votre travail de géologue pour établir une carte géologique du Gabon, que vous vous êtes rendu en 2008 pour 7 jours, simplement dans le bassin de Franceville au Gabon, où vous avez fait cette incroyable découverte de fossiles d'organismes vivants inconnus datant de 2,1 milliards d'années. Incroyable, mais vrai.
C'est intéressant et je dirais incroyable, oui, parce que c'était inattendu, totalement inattendu, parce que si on est parti là-bas, c'est pour faire un travail de géologie, ni plus ni moins. C'est absolument pas pour chercher quoi que ce soit en termes de forme de vie ou de vie complexe multicellulaire, puisque dans toute la littérature qui existe depuis 150 ans, il n'y a absolument rien d'écrit. Donc il n'y a pas de raison que nous, on aille là-bas pour dire, on va trouver des choses, etc. On est parti juste faire un travail de géologie. Et puis, il se trouve qu'il y avait des choses qui étaient intrigantes, qu'on a regardées d'une manière beaucoup plus précise. Et puis notre curiosité nous a amené à prouver effectivement que ce sont des formes de vie complexes.
Alors vous nous faites le récit de cette extraordinaire aventure qui a donc commencé en 2008 au Gabon et qui est loin d'être achevée, puisque vous avez ouvert véritablement un nouveau champ de recherche sur cette première apparition de la vie complexe multicellulaire au Gabon, mais aussi on le verra en Ukraine, en Inde, en Mauritanie, on va y venir. Vous nous racontez donc cette aventure scientifique en marche dans un très beau roman graphique qui s'intitule « Comment tout a commencé sur la Terre ?» paru paru aux éditions Humaine Science, écrit et dessiné à la main carrément par une formidable artiste et illustratrice originaire du Kazakhstan. Elle s'appelle Adelina Kulkmanova, on y reviendra peut-être, car c'est vraiment un roman graphique d'un genre totalement inédit à tous les sens du terme. Nous avons d'ailleurs un exemplaire, chers amis auditeurs, à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Ouvrage que vous avez coécrit, Abderrazak El Albani, avec vos confrères de l'Université de Poitiers, le paléoanthropologue et paléobiologiste Roberto Macchiarelli, que l'on entendra tout à l'heure, et le professeur de géologie Alain Meunier. Alors, tous deux ont tout de suite compris l'importance de cette découverte, même si beaucoup se montraient sceptiques. Hein, on ne brise pas comme ça un dogme, et on ne revient pas avec des échantillons d'organismes très étonnants, et on ne convainc pas tout de suite la communauté scientifique qu'ils ont effectivement 2 milliards d'années.
Oui, 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 comme tu l'as bien dit, en fait, c'est un travail d'équipe. Hein. Je serais seul, je serais incapable de faire cela. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste à chaque fois. C'est vraiment un travail d'équipe avec des collègues enseignants-chercheurs, des techniciens, d'administratifs. On a besoin de tout ce monde-là pour qu'on puisse faire notre travail de recherche dans des bonnes conditions.
Et aujourd'hui, on y reviendra, Abderrazak, c'est un travail d'équipe avec des jeunes étudiants, doctorants qui viennent du Gabon, qui viennent d'Ukraine, qui viennent d'Inde, qui viennent de Mauritanie aussi.
Oui, parce qu'il y a un fil conducteur à tout ça, puisque ce chantier a été ouvert d'abord au Gabon. On s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire sur une période de temps que Darwin n'a pas pu voir. Hein. Donc l'histoire de l'évolution a été établie sur une période, allez, on va dire, que débute aux alentours de 520 millions d'années. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de l'évolution, là-dessus, on a rien à dire, c'est indiscutable. En revanche, toute la partie beaucoup plus ancienne, jusqu'à 2100, bah, moi ce que j'appelle sous les pieds de Darwin, toute la partie entre guillemets primitive, bah là, effectivement, on manquait d'informations.
Et c'est pas n'importe quoi, c'est énorme comme partie. Bah, enfin, c'est juste monstrueux comme période de temps.
Exactement. Il y a des choses qui sont passées au niveau de l'environnement. Ça a bouleversé les paléopaysages, l'histoire de l'oxygène, le vivant, etc. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire. On a commencé par le Gabon. On a travaillé pas mal d'années sur le Gabon. On s'est dit, bah non, on peut pas continuer. Il faut essayer de voir et comprendre ce qui s'est passé après. Puis, on est allé en Ukraine. Pourquoi en Ukraine? Parce qu'on a des formations de 560 millions d'années qui correspondait à la première émergence de la vie multicellulaire avant que la découverte gabonaise a pu apporter à un sang nouveau, je dirais, à cette histoire.
C'est ça, vous alliez sur des deux bouts de l'échelle. Exact. Le plus ancien, ce que vous avez découvert au Gabon, jusqu'au plus récent, entre guillemets, en Ukraine, 560 millions d'années.
Et ça ne nous a pas suffi parce qu'on est des bolémiques, hein, on a envie de comprendre des choses. Donc on s'est dit, bon, il y a une période de l'histoire de la Terre, de l'histoire du vivant, que les anglo-saxons appellent « boring billion », c'est-à-dire le milliard ennuyeux. Alors pourquoi ennuyeux, j'en sais rien.
Oui, un milliard ennuyeux, oui, ce serait rien passé, bah, rien du tout, pas grand chose.
Ils disent pas grand chose, c'est-à-dire l'oxygène était assez bas, voilà, bon, ça a l'air de faire consensus. En termes de forme de vie, c'est limité à des, allez, on va dire, à des bactéries ou des filaments bactériens ou des accumulations bactériennes. Et on s'est dit, mais pourquoi pas regarder. Donc du coup, on a un chantier qui a été ouvert en Mauritanie, 1 milliard d'années, 1 milliard 100, et un chantier qui est en train de s'ouvrir en Inde, 1 milliard 600 millions d'années. Donc il y a une logique à tout ça. On a envie de comprendre l'histoire du vivant de 2 milliards 100 à 560 millions d'années. Alors ça paraît ambitieux comme ça, mais c'est que pendant cet intervalle de temps, la Terre va subir des chamboulements extraordinaires, notamment en termes de concentration d'oxygène dans l'atmosphère, en termes d'environnement, qui va beaucoup impacter des émergences de vivants, mais aussi des crises biologiques.
Et oui,
c'est important.
C'est ça, parce qu'en fait, au fond, vous traitez, on va y revenir, de sujets tellement actuels, c'est-à-dire de plusieurs émergences de vie, au moins deux, et de plusieurs extinctions, disparitions de la vie.
Qui sont totalement liées à l'environnement de l'époque.
De quoi nous dire quelque chose autour de la question comment tout a commencé sur la Terre. Je vous propose de retourner sur le lieu même de votre découverte, dans ces carrières du bassin de Franceville au Gabon, mais avec une question pratique, soulevée par une autre formidable auteure et dessinatrice de BD scientifique, Marion Montaigne, auteure entre autres de « Tu mourras moins bête ». Et oui, et on l'écoute.
Oui, alors moi j'ai une question qui peut paraître un peu simpliste, mais je me demande toujours quand les géologues ou quand il y a des fouilles, comment vous savez que ce que vous êtes en train de découvrir, de déterrer, est très important et que vous ne passez pas à côté d'un coquillage bizarre, etc. Comment vous savez que c'est un élément qui date de millions d'années et qu'il ne faut absolument pas passer à côté?
Votre réponse, Abderrazak El Albani, comment on fait?
En fait, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose. on a juste la curiosité, parce que le chercheur doit l'être. Et si en plus on a un peu d'ouverture d'esprit, bon, on ne peut pas... Quand on voit qu'il y a des artefacts, bon, on les voit, c'est des artefacts. Mais quand c'est quelque chose de bien organisé, répétitif, dans l'espace et dans le temps, C'est-à-dire on voit des formes qui, et en même temps diversifiées, là on n'a pas le droit de ne pas ramasser, on n'a pas le droit de ne pas regarder. Et pourtant, on est parti de loin. Comment voulez-vous que nous, chercheurs, en plus non spécialistes, d'ailleurs, 2010, il n'y avait pas de spécialistes, 2008, il y avait encore moins de spécialistes en la matière, dire, ben voilà, ce qui est en face de nous, ce qu'on est en train de sortir de cette carrière, c'est des formes de vie. Pas du tout. On avait un doute et bon, on a ouvert un programme international et on a eu de la chance, malgré les difficultés qu'on a eu au départ, d'inciter des gens, des collègues étrangers, français, et donc on a monté, et en africain également, on a monté un réseau et c'était difficile, très difficile.
De monter un réseau pour dater véritablement, donc c'est, enfin, même pas pour, parce qu'au fond, vous l'aviez daté, vous aviez recueilli. Décrivez-nous déjà ces organismes.
La datation n'a jamais été un problème parce que ça a été déjà daté depuis pas mal de temps. C'est un bassin minier.
Ça, donc 2,1 milliards d'années, ça c'est indiscutable.
Absolument, ça c'est indiscutable.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé et ramené comme fossile? Qu'est-ce qui vous a tant intrigué? Quelles étaient ces formes que vous avez?
Alors, ce sont des formes de taille et de, comment dire, variées. Hein. On a des petits, des moyens, des gros. Ça démarre à moins d'un centimètre, ça va jusqu'à 23 centimètres. C'est des formes qui sont lobées. C'est des formes qui sont, allez, pour imager un petit peu médusaires pour certaines. Ils sont arrondis, allongés, en chapelet, en tube. Parfois, ça traverse le sédiment en horizontal, en vertical. Il y en a au moins 18 morphotypes. Vous savez, je fais un petit jeu avec les étudiants, parce qu'actuellement, on a une exposition à Poitiers de ces fossiles, une partie. Hein.
Parce que vous avez une collection extraordinaire. Hein,
on a ça, oui, c'est une collection unique au monde. Hein. Je le dis parce que tout le monde le dit, donc je le dis moi aussi. C'est une collection unique au monde. Alors, je leur pose la question, ils arrivent et je leur dis, voilà, dites-moi, il y a combien de morphotypes là dans les vitrines? Alors, ils commencent à faire leurs petits dessins, machin, puis ils arrivent, ils me disent 3, 4, 5, voilà. Et après, on fait le tour ensemble. Et puis alors je leur dis, voilà, est-ce que celui-ci ressemble à celui-là, etc. Et on finit à 18. 18 morphotypes, on a au moins 18
morphotypes. 18 formes de vie organiques différents.
Différents. Et en plus, vous avez le mouvement. Le mouvement a été publié il y a moins d'un an dans l'Académie des sciences.
Ça aussi, ça a fait du bruit dans la communauté scientifique. Il y avait un mouvement dans ces organismes, ils n'étaient pas statiques.
Ah ben, on ne bouge pas, il faut qu'il y ait un minimum de sophistication biologique. Il faut que la cellule soit au minimum eucaryote quand même. Je ne dis pas que les prokaryotes, les bactéries, peut pas bouger, peut bouger, mais bouger en traversant les lamines, en recoupant les lamines, en montant en vertical, en montant en oblique, il faut quand même avoir un minimum d'organisation.
Hein, ce cellulaire. Qui veut dire que ce sont des formes de vie très complexes, multicellulaires, déjà. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment quand elles ont apparu, mais qu'à cette époque-là, il y a 2,1 milliards d'années, elle était déjà complexe, la vie.
Elle était complexe. On sait
et très diverse.
Très diverse, parce que ce qui s'est passé, c'est que l'oxygène qui a commencé à monter aux alentours de 2 milliards 4, il va prendre de l'ampleur jusqu'à 2 milliards 100. Donc on a le temps de faire, il y a un chemin quand même, 300 millions d'années, vous vous rendez compte, c'est énorme.
Donc, et c'est grâce à cet oxygène qu'il y a pu avoir une première apparition de la vie.
Alors c'est pas moi qui le dis, c'est la littérature. Si on prend l'Ukraine par exemple, toute la faune édiacarienne qu'on trouve aussi en Ukraine, il y a une glaciation avant, une montée d'oxygène, une émergence de vie complexe. On voit exactement le même scénario. Donc il y a un lien très, très, très puissant entre les deux. En plus, quand l'oxygène baisse, on a des crises biologiques majeures, une extinction. Donc la vie a commencé déjà à faire des tentatives, déjà à 2 milliards 100. Hein, donc c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas long fleuve tranquille. Hein. La vie se développe quand les conditions environnementales sont là. Pas de problème.
Mais elle peut aussi disparaître. Ce qui s'est passé, puisqu'on pensait qu'il n'y avait jamais eu de vie complexe à ces dates aussi reculées.
Ça disparaît, mais la mémoire génétique reste. Parce que quand on voit la faune, c'est pour ça qu'on est parti en Ukraine et on est en train de regarder en Mauritanie, en Inde. Parce que quand on voit la faune ukrainienne, on voit qu'il y a des formes qui sont similaires à ce qu'on a au Gabon, mais on a des formes, bien entendu, qui sont beaucoup plus évoluées. C'est-à-dire le curseur, le zéro, là, il n'est pas à 560. Le fameux zéro, il est avant l'arrivée de la faune, des organismes multicellulaires au Gabon. Il n'y a pas, comme on dit, un reset, tout se met. Non, quand on voit la faune édiacarienne, par exemple, elle est sublime, mais ça ne peut pas démarrer comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui a fait susciter chez Darwin la question, quand il voit l'explosion de la vie au Cambrien, il dit, mais comment se fait-il que tout ça arrive extrêmement sophistiqué, des choses qui sont passées sous ses pieds, à lui.
Et donc, il y a eu essais, au fond. La vie a essayé.
Des tentatives, des échecs. Et ça va continuer tout le long jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas échapper. Hein.
Eh non, on ne va pas y échapper aux extinctions non plus, probablement. On y reviendra autour de la question comment tout a commencé sur Terre, comment la vie multicellulaire aussi diverse est-elle apparue au moins deux fois sur Terre. Nouvelle question pour vous, soulevée par un philosophe des sciences, il s'appelle Philippe Unman, et il vient de publier un ouvrage sur le pourquoi reine des questions. Voilà pourquoi il a une question pour vous.
Est-ce que ça permet de répondre à une interrogation qu'on a parfois qui est que la vie a eu des êtres unicellulaires pendant très longtemps, pendant plusieurs milliards d'années, et puis il y a eu des êtres multicellulaires ensuite. Est-ce que c'est un coup de peau, est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est, ou est-ce que si c'est arrivé plusieurs fois, est-ce que ça arrive souvent, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait relativement facilement, qui est presque une nécessité si on a laissé passer assez de temps, etc. Donc c'est cette question sur le hasard ou la nécessité de la vie multicellulaire, en fait.
À votre avis, Abderrazak El Albani?
C'est une question de philosophe.
J'adore
cette question. Non, il a tout à fait raison, parce que c'est négliger le hasard, parfois, me paraît difficile. Mais d'un autre côté, moi, je pense que c'est une nécessité, parce que les premières traces de vie, je ne veux pas revenir encore à 3,7 ou 3,8 milliards d'années, où on voit apparaître les premiers briques du vivant avec les toutes premières molécules.
Les organismes unicellulaires,
très bactériens, etc. Bon, là, aujourd'hui, on est en train de s'orienter vers des météorites carbonées qui ont percuté la Terre en apportant des éléments chimiques qui sont nécessaires pour les briques élémentaires du vivant, etc.
Venus de l'espace,
l'espace. Donc voilà. Après, nous, tout ça va prendre son chemin. Mmh. Et quand on arrive vers 2,4 milliards ou 2,5 milliards, on fait la glaciation, on sort de la glaciation. Et d'ailleurs, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps pour nous dire qu'il y a un bolide de, 70 km de diamètre qui a percuté la Terre, qui a achevé cette glaciation. Et derrière, il y a un changement climatique important. Et c'est après qu'on va voir cette montée d'oxygène et puis le vivant multicellulaire qui se développe. Moi, je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité liée à un changement environnemental majeur qui va induire une sophistication biologique et puis la vie se développe. Donc, c'est une nécessité en réponse à des conditions environnementales favorables.
Impossible, de toute façon, de vraiment savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est votre hypothèse. Mais il y a aussi, on a notamment pas mal de courriers d'auditeurs sur nos réseaux sociaux qui nous disent « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires ? On sait bien comment tout ça a commencé. C'est écrit dans la Bible, ça s'est fait en 7 jours. » Qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs? Ils existent et il n'y a aucune raison de ne pas répondre à leurs questions qui disent « Mais on... »
Il faut surtout répondre à ces questions. Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas la première fois qu'on me les pose. Moi, je n'ai aucun souci pour répondre à ces questions. Moi, je dis aux gens, il y a deux choses. Il y a les croyances de chacun. Chacun libre de croire à ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas un problème. À partir du moment où ça le regarde, ça ne déborde pas, ça reste chez lui, ça ne pose aucun problème. Puis, il y a la science. Alors, la science, c'est les faits. Et les faits, c'est des données qu'on obtient grâce aux outils technologiques, la recherche, etc. Ce sont des faits avérés. Donc, on ne va pas dire que notre planète, c'est 7000 ans. C'est plutôt 4 milliards 550 millions d'années. Donc, ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas la même chose. Mais c'est des choses qui sont avérées. Alors après, les gens qui sont, un petit peu animés par la croyance, etc., il faut discuter. Ça m'est arrivé dans un vol entre l'Ukraine et Paris. J'ai rencontré une Américaine d'origine ukrainienne qui me dit « Mais moi, je ne crois absolument pas à tout cela. Dieu a créé la Terre. » J'ai essayé de lui expliquer d'une manière beaucoup plus didactique, pragmatique, etc. Il n'y a pas moyen, absolument rien à faire. Mais c'est pas au moins le fait d'entendre qu'il y a des arguments scientifiques va peut-être la pousser à aller regarder, chercher, etc. Et se rendre compte qu'effectivement, derrière, il y a la science, et c'est la science qui apporte des faits, et je pense qu'il faut aller vers cette voie-là.
C'est ça, s'ouvrir un peu l'esprit, ne pas s'accrocher à ses croyances ou à ses dogmes, parce que ça peut être parfois des dogmes, accepter que ça bouge, ça change, et qu'on remonte de plus en plus le temps, et puis qu'en plus, ça ne nous enlève rien, que c'est tout aussi beau et merveilleux quand
Absolument,
même,
et le dogme, il ne faut pas le limiter à la religion, le dogme peut être aussi dans la science, et je peux vous dire que c'est hyper répandu sans aucun problème.
Oui, voilà pourquoi vous êtes moins connu, disons, en France que vous ne devriez l'être. Ça, c'est moi qui le rajoute. En tout cas, je vous invite, Abderrazak El Albani, et du côté du Gabon, à écouter La Vie, chanson signée du groupe. Alors, Mikwanya, il est de Mounana, mais vous, ça vous dit autre chose, Mounana
au Gabon ? Bien sûr, Mounana, c'est l'endroit où il y avait encore un super truc. Ce sont les réacteurs nucléaires naturels. C'est le seul endroit au monde, dans le bassin de Franceville, et notamment à Mounana, grâce aux collègues de Strasbourg, Gauthier Lafaye et Francis Weber, que je salue. Il y a eu un énorme de travaux parce que c'est le seul endroit où l'uranium va fonctionner comme un réacteur nucléaire naturel.
Naturel.
Naturel, tout simplement, comme dans une centrale nucléaire. Vous mettez de l'uranium, vous mettez tourner les ingénieurs derrière, tournent les boutons, on fait des traces de fission, on se désintègre, ça chauffe et on produit de l'électricité. Sauf que tout ça s'est produit il y a 1,970 milliard d'années. Il n'y avait pas d'ingénieurs à l'époque. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe qu'au Gabon, parce qu'il y avait des conditions physico-chimiques, François explique mieux que ça, mieux que moi en tout cas, qui ont permis, qui ont généré ces réactions de fission. Et bien, Mounana est célèbre pour ça.
Et bien, on écoute le groupe Mikwanya de Mounana, bien connu de nos auditeurs gabonais, qui nous écoutent à Franceville, comme à Libreville et Port-Gentil, sur 104 FM, La Vie sur RFI. La vie célébrée par le groupe gabonais Mikwanya de Mounana sur RFI. Autour de la question comment tout a commencé sur Terre, nous remontons donc le temps au Gabon, justement sur les traces des premières formes de vie multicellulaires découvertes par notre invité, le professeur Abderrazak El Albani, dans le bassin de Franceville, daté 2,1 milliards d'années, je le rappelle, soit 1 milliard d'années plus tôt que prévu. Une découverte qui, on l'a compris, change toute notre chronologie et toutes nos certitudes sur ce qu'on doit désormais, grâce à vous, Abderrazak, appelée la première, sinon une des premières apparitions de la vie complexe, et puis au moins autant de disparitions avant que ne réémergent des formes de vie complexes également, quand l'oxygène et les conditions ont de nouveau été favorables. À ce sujet, je propose l'éclairage du professeur de paléoanthropologie et paléobiologie, Roberto Macchiarelli, qui a lui aussi été totalement alors dérouté d'abord, et puis très vite émerveillé et conquis par vos fossiles. C'est l'un des premiers à les avoir analysés, à vous avoir cru et soutenu. Il est le co-auteur, avec le géologue Alain Meunier, de ce superbe roman graphique « Comment tout a commencé », dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. J'ai joint Roberto Macchiarelli par téléphone à Poitiers, où il était en soutenance de thèse pour ses étudiants. On l'écoute.
Cette découverte qui le mérite 100% de Abder El Albani, qui a cru à ça jusqu'à la fin, nous parle d'une transition qui s'est produite peut-être plusieurs fois dans de différents contextes, mais nous connaissons aujourd'hui ceux et seulement ceux du Gabon, entre vie très simple et vie un peu plus complexe, entre la vie prokaryote et la vie éo, eucaryote, à dire une organisation cellulaire qui permet en fait à des organismes de se manifester dans leur variation de forme, de taille, de fonctionnement. C'est la diversité. Avant, on était dans un monde simple, monotone. À partir de là, peut-être, les choses ont changé. Mais il faut dire que la vie arrive, se manifeste et disparaît. Ça, c'est normal. Et c'est, on l'appelle le turnover, des changements des cycles. Et après, la vie a trouvé des autres chemins pour évoluer de toute façon.
Est-ce que cette découverte, ces travaux, changent votre manière peut-être de travailler autour de la vie ou devraient peut-être changer la manière dont on parle du vivant aujourd'hui? Vous dites qu'il y a eu une grande période, énorme période, sur laquelle on ne sait rien, on sait très peu de choses. Est-ce que ça change quelque chose justement dans vos travaux aujourd'hui, dans ceux d'autres biologistes ou paléobiologistes?
Écoutez, la réponse est absolument oui et remarquablement oui. Aujourd'hui a été publié un article qui nous montre que les champs magnétiques terrestres, peut-être, étaient déjà présents comme bouclier qui nous défend en quelque sorte du rayonnement cosmique, au moins partiellement. Il était déjà présent il y a 4,2 milliards d'années. Alors, je sors dans une formation où j'enseigne aussi en premier cycle et j'avais 300-400 étudiants dans l'amphi il y a quelques semaines et je lui dis que le bouclier, la signature magnétique de la planète a été mise en place il y a environ 3,4 milliards d'années. Ça change tout pour plusieurs choses, notamment l'évolution de la vie, la température de l'océan, la température de l'atmosphère et pas mal de choses. Peut-être aujourd'hui, nous avons gagné 900-800 millions d'années dans une période clé de l'histoire de la vie et je dois remettre en discussion complètement mon cours du première année. Cette type de découverte touche à la base notre connaissance sur l'évolution de la vie. Parce que nous donnons un délai temporel qui, il y a quelques années, a été considéré tout simplement comme invraisemblable. Et nous avons parlé pour des décennies, de facto, d'une période d'un milliard d'années de vie monotone, simple, et de l'apparition soudaine d'une vie complexe aux alentours de 600-700 millions d'années. Alors, il faut reculer cette horloge et arriver à quelques millions d'années auparavant. Oui, tout ça nous affecte notre vision de l'évolution elle-même.
C'est l'éclairage de votre ami et confrère, le paléobiologiste, paléoanthropologue Roberto Macchiarelli de l'Université de Poitiers et du Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est vrai que tout a changé, tout est en train de changer, tout remonte beaucoup plus loin que prévu. On est à un moment où l'on se rend compte que quoi? Parce qu'on n'avait pas retrouvé des traces, donc on basait notre savoir sur ce qu'on avait retrouvé et qu'au fond, il faut remonter bien plus loin. Et comme vous disiez tout à l'heure, la vie complexe, une nécessité peut-être.
Oui, les techniques ont évolué aussi. Les techniques d'analyse ont évolué. Il y a des terrains qui sont un peu, je dirais, maintenant plus disponibles avec la fonte des glaces à certains endroits dans les zones des pôles.
Donc toute chose, malheur est bon. Enfin, ouais, on peut dire ça comme ça.
Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et puis, surtout, la technicité a permis d'avoir un banc hyper important pour comprendre et résoudre certains. On a toujours imaginé, c'est toujours l'histoire du dogme, on a toujours imaginé une Terre. On va dire formé à 4150 et derrière on est dans des complètement hostiles, un environnement très, ce qui est le cas au début. Et on va, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les températures océaniques, il y en a qui nous, dans certains travaux, on était à 80 degrés vers 2100. C'est absolument pas vrai, entre guillemets, je dis absolument pas vrai, parce qu'on n'est jamais à l'abri de, c'est la recherche, c'est comme ça. On est à 27 degrés, 28 degrés, c'est parce qu'on a des éléments pour arriver à ce résultat-là. Tout ça pour dire que la recherche avance, les résultats, on montre très bien que effectivement, quand les conditions sont là, la vie peut se développer. Et comme dit Roberto Macchiarelli dans son discours, le dernier papier qui vient de sortir, qui nous parle d'un champ magnétique terrestre, c'est une révolution d'un milliard d'années. On a pris un milliard d'années encore dans la vue pour montrer que les choses, ils sont pas peut-être aussi complexes qu'on... Certains scientifiques ont pu mettre ce schéma où la Terre est complètement hostile jusqu'à 600 millions d'années. C'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Et je dirais même que l'oxygène en lui-même, qui a été débattu pendant très longtemps, grande question aujourd'hui. On a reçu les spécialistes américains qui sont venus nous voir à l'université de Poitiers avec qui on a discuté parce qu'ils sont intéressés par ces thématiques-là et commencent à dire bah, il y en a eu beaucoup plus que ce qu'on croyait à 2 milliards 100. Donc effectivement, c'est un moteur, c'est l'énergie pour que la cellule puisse se développer et de dire bah, voilà, maintenant je vais coopérer avec ma copine pour faire un organe multicellulaire. Ça prend du temps, on est d'accord. Mais l'oxygène au départ, on nous disait qu'il y avait très peu, 0,1 par rapport à l'actuel. Maintenant, on est rendu à 15-16%. Aujourd'hui, on a 21% d'oxygène dans l'atmosphère. Donc déjà, là aussi, c'est grâce aux
techniques. Et la condition nécessaire sine qua non pour que la vie complexe puisse se développer.
C'est des organismes qui vivent sur le fond. S'il n'y a pas d'oxygène... Alors les bactéries, bien entendu, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils peuvent vivre dans l'anoxie la plus totale. Ça ne leur pose pas de problème. Par contre, si on veut faire un organisme, mais si en plus de surcroît, il bouge, on a besoin d'un minimum d'oxygène.
D'énergie et donc d'oxygène. Comment se fait-il, Abderrazak Al-Albani, que vos découvertes, vos recherches, ce que vous nous dites depuis quelques années déjà, hein, et avec des collègues, et ça a été prouvé et parution dans de nombreuses et prestigieuses revues scientifiques, comment se fait-il qu'on ne le sait pas un peu plus, en France tout du moins? Vous êtes invité de par le monde, vous accueillez dans votre université des étudiants du monde entier et notamment de régions, on l'a dit, et on va y revenir, Ukraine, Mauritanie, qui apportent non pas de l'eau à votre moulin, mais qui apportent au contraire d'autres réflexions. Comment se fait-il que le grand public, nous, on n'est pas très au courant de tout ça, mais on a l'impression que même dans la communauté scientifique en France... vous devriez être une star, Abderrazak Al-Albani.
Non, je ne cherche pas à être une star. Non.
Ah, je sais bien.
Non. Non, ce que je veux dire, c'est juste encore une fois de plus, je le dis, je le répète, c'est un travail d'équipe. Je ne suis rien sans des jeunes, des moins jeunes, staff administratif, staff technique derrière moi. Je ne suis vraiment rien du tout. Donc ça, au moins, le cadre est clair. Nous, on fait au mieux, le maximum qu'on peut pour partager.
Oui, vous partagez énormément. Il y a eu des films, vous avez un site
On a fait un musée virtuel, on a fait deux films documentaires, on a fait déjà un livre avant ce livre-là, « Comment tout a commencé sur la Terre », qui était un magnifique ouvrage accessible à tout le monde. Donc, on fait le maximum qu'on peut. Et franchement, je le dis sous contrôle de mes collègues et mes amis, je n'ai jamais refusé... à donner une conférence quelque part, que ça soit un village paumé dans le Poitou, dans le Limousin, ou aller faire un petit tour, je ne sais pas où, je ne veux pas citer de grandes villes, peu importe. Je ne refuse jamais une invitation à partir du moment où ça colle avec
mon
calendrier.
Vous avez été invité en Chine il y a quelques mois pour justement parler de votre travail et parce que les scientifiques du monde entier, oui, ils sont très intéressés.
Ils sont très intéressés.
Cette remise en question, cette remontée dans le temps des origines de la vie sur Terre, c'est passionnant. On se dit pourquoi en France ça ne...
Nos collègues américains s'ouvrent de plus en plus. Ils sont même plus ouverts. Ils sont venus chez nous. Ils sont venus 4 fois ces derniers temps. Ils ont échantillonné. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas de réponse à toutes les questions. Mais nous, en tout cas, on est sur une thématique qui a fait ses preuves. On a publié, on continue à publier, soit dans des journaux disciplinaires, soit dans des journaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est pour ça qu'on est recruté, c'est pour ça qu'on fait ce métier de chercheur.
Et vous le disiez, vous faites aussi passer hein, ce que vous avez découvert. Donc je reviens sur ce superbe roman graphique « Comment tout a commencé sur la Terre » que vous avez donc écrit avec vos collègues Roberto Macchiarelli et Alain Meunier, et avec des dessins écrits à la main, parce que j'ai envie de m'arrêter là-dessus parce que c'est incroyable. Alors là, c'est aussi une illustration, une dessinatrice qui œuvre déjà dans le Canard Enchaîné d'ailleurs, qui s'appelle Adelina et qui a carrément écrit à la main et illustré de telle manière qu'on comprend tout ce roman graphique.
Tous les dessins, tout le texte est écrit à la main. Voilà, 190 pages, comme elle le dit bien Adelina, c'est un big challenge pour elle. Elle est venue nous voir, on a discuté ensemble, elle a vu les fossiles, elle a été prise par la passion pour les fossiles. Elle a fait un boulot vraiment, vraiment superbe. Et...
Sauf qu'elle vous a pas raté, hein, quatrième de couverture, alors, vos portraits aux chercheurs respectifs.
Le seul truc qu'elle a raté, c'est moi, parce que...
Vos collègues non plus, hein.
Mais elle a un talent extraordinaire et bravo.
Vous le découvrirez, chers amis auditeurs, si vous gagnez cet ouvrage en nous le demandant par mail ou sur notre page Facebook. On va s'arrêter, et c'est pas pour rien, en musique du côté de l'Ukraine, parce que vous avez dit que c'est là aussi où effectivement l'autre barrière, le Gabon, ce serait les plus anciennes formes de vie multicellulaire, et puis celle qu'on croyait savoir, là où ça avait démarré, c'est du côté de l'Ukraine. Vous menez des travaux en Ukraine, ouais. Vous avez des étudiants ouais. ukrainiens qui travaillent avec vous.
Absolument, on a des étudiants ukrainiens, comme on a des étudiants gabonais. Merci à l'ambassade de France à Kiev, merci à l'ambassade de France à Libreville. Grâce à eux, on a cette collaboration. Et merci à l'université de Poitiers qui est très ouverte sur les étudiants internationaux. Ça c'est clair, c'est un des points forts, on en a plusieurs, hein, mais c'est un des points forts de l'université de Poitiers.
Les étudiants internationaux que vous accueillez et qui payent les mêmes droits que les autres, hein, c'est ça?
Pour l'instant, nous, en tout cas, l'Université de Poitiers, ils continueront à payer le même droit que les autres. Alors, par ailleurs, j'en sais rien, mais nous, on fera au mieux pour que ça reste comme ça.
Eh voilà. Bien, écoutez, j'espère qu'on pouvait continuer, du coup, en clin d'œil à tous vos confrères et à vos étudiants ukrainiens, Abderrazak El Albani. Je propose un groupe de rap ukrainien qui fait salle comble à Kiev comme à Moscou, le groupe Gribi. Alors, Gribi, ça veut dire champignon, champignon. Sur RFI.
Allez, c'est parti. Подарит нам это мгновение И холода за окном не помеха Пока мы здесь, в теплой постели Волосы волнами по твоей шее Касания трепетны и безмятежны Мы, видимо, нашли то, что долго хотели Здесь нас не найдут проблемы Только ты и я в этом мире Время застынет на этом моменте Все, что имею, я отдам тебе Пальцы сжимаются крепко-крепко Это все, что нужно мне Готов убежать за тобой на край света Чтобы еще раз по-новому все повторить Между нами тает лед Пусть теперь нас никто не найдет Мы промокнем под дождем И сегодня мы только вдвоем Между нами тает лед Пусть теперь нас никто не найдет Мы промокнем под дождем И сегодня мы только вдвоем Между нами тает лед Пусть теперь нас никто не найдет Мы промокнем под дождем И сегодня мы только вдвоем Между нами тает лед Пусть теперь нас никто не найдет Мы промокнем под дождем И сегодня мы только вдвоем
Голос твой, он как будто колыбель Я обниму тебя, чтобы не стало холодней Курточка моя так хорошо сидит на ней
А твои глаза как блики в играх NBA
Я делаю навстречу к тебе шаг Чтобы от всех с тобой убежать Под нашими ногами зимний шар Между нами сегодня пожар Нам плевать, что вокруг метель С поцелуями, как будто карамель Температура, как жарко Макапулько Между нами теперь
Ночь с тобой Это значит, что мы не будем спать Беру тебя и профессионально иду гулять Я надену свой костюм Тебе так нравится велюр Ты нашла злого Юру Среди самых лучших юр Я устраиваю рамс Ты ставишь шаг и мат Ты даже и не знаешь, что наш сын не любит шоколад Он как медведь Руками поедает сладкий мед Мы смотрим на него и между нами тает лед
Les rappeurs ukrainiens Gribi, entre nous la glace fond sur RFI. Autour de la question « Comment tout a commencé sur la Terre ?» C'est le titre du formidable roman graphique et collectif de notre invité, le professeur de géologie Abderrazak El Albani, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs et auditrices, pour que vous découvriez vous aussi jusqu'où peuvent nous entraîner les découvertes du professeur Abderrazak El Albani. C'est tout le sens de la question que vous soumet maintenant Éric Krubesi. Préhistorien, spécialiste lui des rites funéraires, il est remonté lui à l'origine de ces rites funéraires dans son dernier essai et il projette sur ce que vous avez découvert, Abderrazak El Albani, dans le futur et jusque dans l'espace.
On a 4 missions qui partent sur Mars en 2020 pour effectivement rechercher la vie sur Mars. Avec l'idée que si on trouvait de la vie sur Mars, ou à un moment, s'il y avait eu de la vie sur Mars, ça voudrait dire qu'il y en a eu dans tout l'univers. Donc, effectivement, s'il y a eu plusieurs apparitions de la vie sur Terre, est-ce qu'il y a pu y avoir plusieurs apparitions de la vie dans l'univers ? Bien sûr, c'est ça. Et l'idée, c'est de, si on retrouve de la vie sur Mars, pourquoi n'y en aurait-il pas eu ou n'y en a-t-il pas dans tout l'univers ?
Voilà le genre d'énormes questions couvrent vos découvertes et vos recherches, Abderrazak El Albani, sur les origines de la vie.
Absolument, ça l'intéresse. C'est pas moi qui va dire le contraire. On n'est pas à l'abri de découvertes, etc. Que ce soit sur Mars ou ailleurs. Maintenant, nous, Nous, on est des terriens, mais les gens qui travaillent...
Vous êtes des géologues, en plus.
On est des géologues, terriens. Il y a les martiens, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur Mars. Et je pense qu'ils s'inspirent un peu de ce qu'on fait. Hein. Donc, on sait très bien sur... Alors, c'est beaucoup plus compliqué sur Mars.
Bien sûr.
Voilà. Donc, il y a les super rovers qu'on envoie qui sont de plus en plus sophistiqués. Alors, on peut s'interroger. Qu'est-ce que ces découvertes faites sur Terre peuvent apporter dans le cadre de l'exploration martienne? Eh bien, tout simplement, un truc simple, entre guillemets. Hein, je dis ça de ma petite fenêtre à moi... de choisir l'emplacement ou le type de roche sur lequel le rover il peut commencer à faire son travail. Des rovers aujourd'hui sont capables de faire des trous, des petits forages, des petits carottages et d'analyser la minéralogie, la chimie, envoyer tout ça. C'est extraordinaire. Mmh. L'aventure martienne, moi, ce qui me plaît, c'est la technicité. Alors après, on n'est pas à l'abri d'une découverte, mais c'est très compliqué. Mais au moins, le fait de sélectionner, parce que ça a toujours été un débat au sein de cette communauté, sur quel type de roche on va se positionner, on va travailler, etc., etc. Donc là, on peut leur dire, voilà, ce type de roche d'argilite noire riche en matière organique, si vous en avez, si on a, je ne sais rien, ou type de roche type grès, sable, etc., pourquoi pas. Donc ça, on est dans des environnements qui peuvent être propices éventuellement à la préservation du vivant. Donc ça aide à ça.
Et c'est comme ça que vous choisissez les sites, parce qu'on l'a dit, vous avez démarré, donc cette découverte s'est faite au Gabon, sur les plus anciens organismes multicellulaires dans cette carrière du bassin de Franceville, jusqu'en Ukraine, mais entre-temps, il y a aussi les Indiens qui vous ont contacté. Mmh. Et puis, vous avez avec vous un étudiant mauritanien qui travaille
Absolument,
sur un site particulier. Oui. Comment vous choisissez justement ces terrains de recherche?
Si vous voulez, ça arrive, ça s'appelle la stratégie scientifique. Hein, quand on travaille sur un projet de recherche, il faut qu'on ait une vision. Et si on n'a pas de vision, on fait rien. Mais ça, c'est quel que soit le domaine. Mmh. Quand on a commencé sur le Gabon en 2008, on s'est dit, bah, très bien, on a avancé. On a publié en 2014 la biodiversité. Mais on s'est dit, on ne peut pas rester cantonné seulement à cet intervalle de temps. On continue, bien entendu. Le Gabon est toujours présent. Mais on s'est dit, il faut qu'on s'élargisse. Et pour s'élargir, il faut aller sur des sites privilégiés d'exception. La Mauritanie en fait partie.
Pourquoi
l'Inde aussi.
Et Mauritanie, par exemple.
Alors, la Mauritanie, il y a des formations d'1,1 milliard d'années. Ce sont des formations extrêmement célèbres, très connues et en plus très bien conservées. Moi, je regarde parce que le mérite revient plutôt à la conservation de ces roches.
Nous, vous trouvez des roches très anciennes et surtout très bien conservées.
Super bien conservées. Mohamed, il travaille là-dessus.
Votre étudiant mauritanien.
Mauritanien, il nous a un petit peu proposé un petit peu ce qu'il fait, nous a exposé ses résultats. Mais c'est formidable. Et les Américains sont venus pour travailler avec nous, faire des analyses, etc.
Sur le site d'Atar, c'est ça?
Voilà, sur le
nord-ouest,
dans la région d'Atar,
de la Mauritanie.
Alors pour l'instant, on travaille sur des forages. L'objectif, c'est d'aller sur place. En même temps, on a été aussi, on visait l'Inde depuis longtemps. Alors il se trouve qu'une jeune post-doc, quelqu'un qui a déjà son doctorat, nous a contacté pour venir à Poitiers travailler avec nous. Donc, bénéficier de l'expérience qu'on a développée à l'Université de Poitiers sur l'étude de roches très, très anciennes. Et on l'a acceptée. Elle est venue. Elle travaille sur des formations d'1,6 milliard d'années. Et donc, on a la chance en France et la chance à l'Université de Poitiers d'avoir tous ces gens-là. Voilà.
Oui,
et
c'est une vraie chance, un vrai apport. Parce
et puis, on a des Gabonais aussi.
Parce que vous couvrez, en fait, si j'ose dire, dans ce milliard d'années qu'on jugeait très ennuyeux, qui n'est pas si ennuyeux du tout, vous couvrez de 2,1 milliards d'années, que je ne dise pas de bêtises avec ces chiffres monstrueux,
à 560
millions d'années.
Voilà.
Entre donc, dans l'ordre Gabon, Inde, Mauritanie.
Exactement.
Et Ukraine.
Bah, tu vois comme quoi, il ne faut pas désespérer. Hein.
C'est ça, on y arrive même avec les chiffres.
Voilà,
pour ces formes de vie multicellulaires, qu'est-ce qui vous intrigue le plus là-dedans, Abderrazak, parce que vous avez démontré aussi qu'elles bougeaient, qu'elles étaient diverses. On comprend bien que c'est peut-être, enfin, c'est des essais de la vie. Qu'est-ce qui vous intrigue
alors, moi,
le plus?
Ce qui m'intéresse d'abord, c'est une question qui reste presque limite philosophique, c'est de savoir à partir de quel moment on va partir de l'unicellulaire au pluricellulaire. Ça, c'est le Gabon qui pourrait nous aider. Qu'est-ce qui a déclenché cette multicellularité? Donc, il y a l'oxygène, etc. Mais la cellule, elle va coopérer avec sa voisine pour faire un tas de multicellularité, mais ça ne va pas se faire comme ça. À un moment ou à un autre, il faudrait qu'on passe de le stade cellule bactérienne à un stade cellule eucaryote. Toi et moi, nous sommes un tas de cellules eucaryotes. J'espère, autrement, on a des soucis à se faire.
A priori, c'est ça.
Par la suite, on nous dit qu'il y a une extinction massive, une crise biologique. Et les crises biologiques, ça veut dire que plusieurs espèces vont disparaître parce qu'il y a un changement environnemental capital et qui va se faire entre, allez, on va dire 1,9 milliard jusqu'à 700 millions d'années. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille regarder. Derrière ça, il y a une vision et un scénario. On aimerait comprendre comment la vie a pu émerger, dans quelles conditions, pourquoi elle va disparaître. Est-ce que ce milliard ennuyeux est toujours ennuyeux? Est-ce qu'il est vraiment ennuyeux? Est-ce que l'oxygène... Bah, on est à l'abri de rien. Et c'est ça la recherche. Et comme je dis à chaque fois, on a le droit même de se tromper. Parce que si on n'explore pas, si on ne fait pas de la recherche, si on ne s'ouvre pas à l'international, etc., etc., on va rester cantonné dans un tuyau, pardon de le dire comme ça, dans un tableau Excel et on n'avancera pas. La recherche, c'est ça. Il faut un peu de liberté, un peu d'ouverture d'esprit et l'ouverture à l'international. Autrement, malheureusement, dans le Poitou, on n'a pas de paléoprotérozoïque, hein, donc on n'a pas de cambrien non plus. Donc, ça va être difficile.
Donc, heureusement que vous avez ces jeunes chercheurs venus de partout, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Ukraine. C'est aussi, on le découvre dans ce très bel ouvrage, c'est aussi une manière de comprendre, ou je ne sais pas si c'est de nous préparer, mais en tout cas de comprendre qu'il y a aussi eu des extinctions, qu'il y en aura probablement encore, et que nous sommes aussi en grande partie responsables de celles qui risquent d'être devant nous, hein, Abderrazak Albani. Il y a ça aussi dans vos recherches et dans vos découvertes.
Bien sûr, le livre l'explique bien à la fin de ce livre, un excellent chapitre qui évoque tout ça. Si vous voulez, des crises biologiques, il y a toujours eu. Alors, on parle des 5 crises majeures que Darwin a pu observer. Il n'y a aucun problème. Ça, on les connaît. Depuis 520 millions d'années à aujourd'hui, il y a eu des crises qui ont éliminé jusqu'à 95-96% d'espèces. C'est énorme. Et puis,
Il y en a eu avant.
Il y en a au moins 2. Donc, celle qui va être fatale pour le biota gabonais, celle qui va être fatale pour le biota diacarien. Et là, aujourd'hui, c'est-à-dire parce que la faune qu'on trouve en Australie, les diacaras sont des chaînes de montagnes en Australie.
Très anciennes,
pareil, 560 millions, 600 millions d'années, ce qu'on a en Ukraine. Et donc, on aimerait savoir, la vie, elle va être affectée par ces crises parce qu'on a des changements environnementaux hyper importants. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vie sort toujours renforcée des crises biologiques.
Waouh, ça, on retient ça.
La vie en général, parce que nous, on va disparaître, ça c'est clair, pour des raisons évidentes d'impact anthropique sur notre environnement. Je ne suis pas en train de faire de la démagogie, mais c'est évident, on le voit aujourd'hui, les températures d'aujourd'hui le montrent bien. Mais la question m'a été posée ce matin par mes étudiants. On pose la question en amphi, mais est-ce qu'on aura les mêmes espèces? Est-ce que ça sera de l'homo sapiens sapiens? Je leur dis, je ne sais rien, c'est de la science-fiction. Mais si on se base sur ce qu'on connaît déjà, il est fort probable qu'il y ait une autre forme de vie qui n'a absolument rien à voir avec nous. D'ailleurs, pourquoi pas?
Pourquoi pas, effectivement. Vous avez presque le sourire en disant ça. Merci infiniment, Abderrazak Albani, d'être venu ouvrir nos esprits à d'autres formes de vie passées et peut-être futures. En tout cas, regarder autrement l'émergence et la disparition de différentes formes de vie. Je rappelle que nous avons un exemplaire de cet excellent ouvrage, livre graphique, à vous offrir, chers amis auditeurs. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, Comment tout a commencé, c'est son titre, Comment tout a commencé sur la Terre, paru aux éditions Humaine Science. Merci Abderrazak, vous revenez
Merci
évidemment
beaucoup.
Quand vous voulez.
Avec
puis moi plaisir. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à Mohamed qui est votre étudiant et qui travaille sur le site d'Attar en Mauritanie avec un tout petit extrait de Noura Mint, c'est Mali sur RFI.
Super.
Autour de la question, j'ai du mal à parler sur cette musique. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. On ne parlera pas de vie, quoique on parlera d'archéologues qui travaillent sur les scènes de crime aujourd'hui grâce à de nouvelles technologies. Le cœur bien accroché, oui, mais ça nous en dira autant sur les vivants que sur les morts, bien sûr. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Chers amis auditeurs, c'est bientôt l'heure du journal.
Mondoblog avec la